Vous écoutez RTL.
Sur RTL les curieux.
RTL.
Première radio de France. La curiosité est un vilain défaut.
En relisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe et toi, ça fait deux.
Chaque fois que je fais une faute, je sors la même excuse. Non, je pense que ça doit juste être une faute de frappe.
C'est toi que j'aime.
Ne prends qu'un aime.
Chose que tu peux pas faire quand t'écris avec un stylo. Ah non, mais je pense que ça doit juste être une faute de stylo.
Je t'en supplie.
Point sur le i.
Denis Bonnec, Thomas Hugues.
Norman et Serge Gainsbourg dans la même mise en onde signée notre réalisateur André Facetta. Eh bien, on va découvrir un métier incroyable. Je ne savais pas qu'on pouvait être payé pour ça. Eh bien oui, et c'est une tellement belle idée, le métier de correcteur. Bonsoir Muriel Gilbert.
Bonsoir, merci de m'accueillir.
Bienvenue. C'est un grand plaisir et un grand stress aussi. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant.
Moi aussi, donc c'est partagé, c'est bien, pas pour la même raison.
Vous êtes correctrice pour le journal Le Monde depuis une dizaine d'années. Le métier de correcteur, c'est quoi ?
Le métier de correcteur, c'est repasser derrière les journalistes une fois qu'ils ont écrit leurs articles. Quand ils les ont écrits dans un quotidien, ils les écrivent souvent assez vite d'ailleurs, ce qui est une première bonne excuse pour faire des fautes. Parce que pour éviter de faire des fautes, il faut se relire. En général, ils n'en ont pas le temps dans un quotidien.
Alors quand je parle de stress, c'est qu'on vous a envoyé, on fait toujours ça avec nos invités parce qu'on pose énormément de questions. Donc on envoie nos questions aux invités avant l'émission. Et là, je me suis dit, oh, elle va lire nos questions, peut-être qu'elle va devoir nous corriger. Alors, est-ce que vous avez mis beaucoup de rouge sur notre interview ?
Alors j'ai mis un petit peu de rouge, mais en même temps, il ne faut pas que vous ayez... C'est un des objectifs de ce livre,
on a pas
justement
honte.
Décomplexer les gens.
Allez.
Moi je dis souvent aux gens, à mes amis même, qui me disent « mais non, je ne vais pas t'envoyer un mail, tu vas corriger les fautes et tout, je ne voudrais pas qu'on écrive pas parce qu'on a peur de faire des fautes ». Un correcteur, c'est comme un médecin, on se déshabille facilement devant un médecin parce qu'on en a besoin. Et bien un correcteur, voilà, il a l'habitude de voir des fautes et ça lui passe bien loin. Et puis si les gens faisaient plus de fautes...
Donc on s'est mis à nu devant vous alors avec notre interview.
Je vais garder mon pull quand même au bonheur des fautes, c'est le livre dont vous parlez, Muriel Gilbert. Confession d'une dompteuse de mots, c'est à la librairie Vuibert.
Alors nos fautes, j'en veux une au moins.
Alors il y en a une, on ne peut pas dire que ce soit une faute d'orthographe, mais c'est une erreur.
Ah oui
justement, dans les questions que vous m'avez envoyées, vous m'avez dit, dans votre livre Au bonheur des dames,
oh, c'est drôle.
Aux éditions La Librairie Vuibert.
Ça c'est Zola, c'est pas Muriel Gilbert.
Ben voilà, c'est ça.
Mais ça c'est notre cerveau qui fonctionne tout seul dans un coin, c'est ça.
C'est ça, c'est exactement la même faute qu'avaient fait les journalistes du Monde il y a quelques années au moment où le prix Goncourt ou Renaudot, je ne sais plus, avait été attribué à Daniel Pénac pour Chagrin d'école et que plusieurs journalistes sous plusieurs plumes, je l'ai corrigé, ils avaient écrit Chagrin d'amour. Et donc c'est comme ça le cerveau qui lit Chagrin et amour. Moi je me suis dit qu'ils avaient peut-être des soucis.
Le métier de correcteur, c'est un métier qui est vieux comme la presse.
Et même avant, avant. 2000 ans avant Jésus-Christ, quand on écrivait sur des tablettes avec des signes cunéiformes, il y avait quand même déjà des gens derrière la personne qui gravait pour vérifier qu'il n'y avait pas d'erreur. Il s'agissait souvent de listes, d'échanges commerciaux, de choses comme ça. C'était très important qu'il n'y ait pas d'erreur. Il y avait déjà des gens qui corrigeaient.
Quand apparaît l'orthographe et qu'est-ce que ça veut dire orthographe ?
Alors, orthographe, ça vient du grec, comme pas mal de mots français. Ortho, comme dans orthogonal, orthorexie, ortho, un tas de choses, ça veut dire droit, faire comme il faut, quoi. Et puis graphein, c'est le verbe écrire en grec. Donc c'est la droite écriture.
Et on utilise ce mot depuis quand on a décidé qu'il y avait une orthographe ?
Alors, depuis quand on utilise le mot, j'en sais rien, il faudrait regarder dans la Larousse, ouais. Mais les correcteurs ne savent pas tout et ils ont souvent recours à leur dictionnaire pour chercher des réponses. En revanche, disons que jusqu'à la création ou la décision qu'a prise Louis-Philippe de faire que les fonctionnaires doivent respecter l'orthographe de l'Académie française, eh bien chacun écrivait un peu comme il voulait. Et en particulier, d'ailleurs, les imprimeurs faisaient partie des gens qui étaient assez prescripteurs, mais chaque imprimeur avait sa propre orthographe, celle qu'il décidait, et puis chacun pouvait écrire comme il le souhaitait.
C'est aussi une façon d'unifier un pays, d'unifier une langue. Comment ça marche pour les langues régionales dans un cas comme
celui-là ?
C'est
une façon de pouvoir gouverner un pays, par exemple,
oui,
d'avoir la même langue et de créer une identité nationale, etc. Donc, c'est vrai que la langue, le français, s'est imposé très progressivement, commencé à partir du 10e, 11e siècle. Mais on a réussi, finalement, on s'aperçoit au moment de la guerre de 14, par exemple, qu'il n'est pas encore, que beaucoup de gens parlent encore des langues régionales et que dans les régiments, on est obligé de faire des régiments par région, autrement les gens ne se comprennent pas entre eux.
Dans votre livre, Muriel Gilbert, au bonheur des fautes, publié à la librairie Vuibert, vous racontez qu'au 19e siècle, les instituteurs confiaient parfois une bûche ou un collier à un enfant. Ça servait à quoi ?
Ça servait, c'était une espèce de mistigris, on pourrait dire. On dit ça, vous savez qu'il y a ces jeux comme ça où celui qui avait cet objet dans la main à la fin de la journée, disons qu'on le donnait au premier enfant qui avait prononcer un mot de patois ou de langue régionale. Ah. Et s'il n'arrivait pas à le donner à un autre, ça veut dire que c'est un peu une forme de délation quand même. Hein. Ben machin, toi, t'as dit un mot en patois, donc je te donne l'objet. Et celui qui l'avait à la fin de la journée avait une punition. Des lignes à écrire en français, peut-être.
Jusqu'à ce que tout le monde se mette à parler français.
Voilà.
Muriel Gilbert, est-ce qu'on est bon en orthographe, nous, les Français?
Qui, les Français?
Oui.
Mais les Français ont de bonnes excuses pour ne pas être excellents. La langue française est quand même très compliquée à écrire.
C'est vrai, ça?
Oui, c'est vrai. C'est vrai parce qu'au moment justement où on a décidé de la fixer, cette orthographe, nos grammairiens, là, on avait fondé l'Académie française une centaine d'années plus tôt, et nos grammairiens se sont mis ensemble, puis ils ont bien réfléchi, puis ils ont eu envie de montrer les origines latines de la langue. Parfois, ils ont même rajouté des erreurs. Ils ont voulu remonter, pourquoi est-ce qu'on dit... compter, par exemple, le verbe compter, comme dans comptable, comptabilité, etc.
O-M-P-T.
Alors, c'est pour qu'on voit la racine latine. On n'était pas du tout obligé de l'écrire comme ça. On aurait pu écrire peut-être C-O-N-T-E. Allez savoir. En tout cas, c'est la décision qui a été prise beaucoup plus... Enfin, cette tendance a été adoptée dans les langues latines. C'est pour ça que l'italien et l'espagnol s'écrivent beaucoup plus comme ils se prononcent. C'est une décision qui a été prise à une époque en Espagne et en Italie.
Alors, si on doit faire un... Parce qu'il y a eu des enquêtes, des études qui ont été faites, si on doit faire un petit match entre les régions françaises...
les Bretons, je suis sûre qu'on est les
meilleurs. Quelle est la région ou les régions qui obtiennent les meilleurs scores en orthographe?
Les meilleurs scores, c'est les méridionaux. Pas pour les Bretons, parce que je crois que les Bretons et puis l'Île-de-France, on n'est pas très fort non plus. Hein. On fait vraiment partie de la queue du peloton.
Mais il y a des explications,
moi,
complètement.
Ça,
c'est arbitraire, ça.
Muriel Gilbert, en vérité, j'en sais rien. Mais j'imagine que les méridionaux, comme ils prononcent beaucoup mieux les lettres et en particulier les E muets, je me dis qu'ils doivent être meilleurs en dictée. Ah. Du coup, c'est plus facile, non?
Est-ce que vous êtes d'accord, Muriel Gilbert, de nous accueillir dans votre bureau de correctrice et de nous révéler tous les secrets de votre métier?
Tous les secrets à vous, oui, mais peut-être pas à la radio.
C'est dommage parce qu'on est là pour ça.
Il y a un secret correctorial,
si on fait bien notre...
ça, comme un secret médical.
Si on fait bien notre métier de journaliste, on devrait arriver à vous retirer quelques infos quand même. À tout de suite, les curieux sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Le français est à l'honneur dans la curiosité. On vous fait découvrir le métier de correcteur avec notre invité, donc une correctrice, Muriel Gilbert. Vous corrigez depuis 10 ans les pages du journal Le Monde. Ça vous est venu comment, tiens?
Ça m'est venu par hasard, par accident. Comme d'ailleurs pour la plupart des correcteurs. Hein, quand je vois les gens qui sont autour de moi, les correcteurs... Correcteur, c'est pas un métier qu'on décide de faire quand on a 5 ou 6 ans. On n'entend jamais dire « Maman, moi, quand je serai grand, je vais faire correcteur. » À moins qu'on ait eu une maman correctrice, ce qui pourrait arriver. Oui. Mais c'est
ou alors on dit « Maîtresse, je voudrais faire maîtresse. »
Oui, voilà. On dit « Je voudrais faire maîtresse, je voudrais faire actrice, je voudrais faire top modèle, je voudrais faire footballeur. » Mais correcteur, c'est rare. Tout simplement parce que le métier est inconnu. Donc maintenant, ça va peut-être venir grâce à vous.
On espère.
On a besoin de correcteurs dans les entreprises.
De plus en plus dans les entreprises, justement, parce que l'orthographe, on en parlera peut-être tout à l'heure, la tendance est plutôt à la baisse pour l'orthographe des Français. Et du coup, maintenant, on s'aperçoit dans les entreprises que c'est devenu un handicap, d'autant plus qu'il n'y a plus de secrétaire, que les cadres doivent taper leur courrier eux-mêmes, et que donc, s'il faut que quelqu'un ait une orthographe, c'est les gens qui tapent les messages. Donc on s'aperçoit que ça peut même faire perdre des milliers d'euros aux entreprises. Du coup, il y a un nouveau métier qui se fait jour, et tant mieux pour les correcteurs licenciés des journaux, c'est celui de coach en orthographe. C'est plus chic.
Ben oui, effectivement, c'est plus chic.
Il existe même une école de correcteurs?
Il existe
Comment
une école de correcteurs, oui. Alors... elle existe depuis 1978, l'école des correcteurs. Elle a été créée par le syndicat des correcteurs, qui était une branche de la CGT à l'époque. Aujourd'hui, elle existe encore. Elle vient de se recréer, en fait, après avoir fermé avec des soucis financiers, etc. Mais elle vient de se recréer en cette rentrée scolaire au sein de l'école Estienne. Donc elle existe toujours, voilà, maintenant en formation pour adultes.
C'est où, à Paris?
C'est boulevard Blanqui, pas très loin du Monde d'ailleurs, hein, sur le même boulevard que Le Monde, par hasard.
On est dans quel arrondissement, pardon?
Dans le 13e, métro Place d'Italie.
Et ben voilà, si vous voulez aller postuler, vous avez l'adresse. En plus, bien parler le français, c'est aussi, ça peut sembler paradoxal, mais c'est aussi une porte ouverte sur le monde, parce que c'est une langue qui est parlée par combien de millions de personnes
280 millions, je crois, c'est les chiffres que j'ai trouvés. Ça fait pas mal de monde, ça fait plus que nos 60, on est combien à 60, 70 millions maintenant?
Oui, pas loin, 66, 7, je ne sais plus, voilà, c'est ça. Voilà. Et ça peut ouvrir les portes des organisations internationales, pourquoi?
Alors, parce que au moment de la création de ces organisations, le français avait encore une place, ou la France avait encore une place très importante qu'elle est quand même en train de perdre, il faut se le dire. Enfin, c'est ce qu'on remarque. Mais donc, au moment de la création des Jeux Olympiques, tout est fait en français et en anglais. Aujourd'hui, on commence à voir ça disparaître. J'ai entendu que ça, qu'on le regrettait. Et l'ONU et toutes les autres organisations, effectivement, le français était encore très important.
Muriel Gilbert, on a envie de vous imaginer travailler. Donc, vous êtes correctrice pour le journal Le Monde depuis 10 ans. Vous travaillez dans un bureau au milieu des journalistes. Vous travaillez chez vous ?
Non, alors dans un journal, on travaille au milieu des journalistes. Au milieu, mais dans une pièce fermée, parce qu'on a besoin quand même un peu de s'isoler. Donc, cette pièce fermée porte un nom bien particulier. D'ailleurs, les correcteurs ont un tas de noms pour un tas de choses différentes. C'est vraiment une culture particulière. Et la pièce dans laquelle ils travaillent s'appelle un castin.
Un castin.
Voilà, castin.
Ça s'écrit comment ?
Alors, C-A-2-S-E-T-I-N. Oui. Ça vient de la casse. La casse, c'était ce qui date de l'époque du plomb, hein, de l'imprimerie au plomb. C'était cette étagère, cette petite étagère très peu profonde dans laquelle on rangeait les caractères de plomb.
Et donc les lettres, les lettres ou les signes.
Les petits caractères de plomb qu'il fallait mettre les uns derrière les autres pour ensuite les imprimer. Et donc, chaque petite case s'appelait un castin. Et bon, par métonymie ou pour s'amuser, on a appelé le petit bureau des correcteurs, le castin.
Vous dites que vous avez un jargon, votre vocabulaire à vous. Quels sont les mots les plus courants que nous, on ne connaît pas, que vous utilisez pour parler de votre métier dans ce bureau ?
Alors, ce n'est pas pour parler de notre métier, mais pour échanger des informations, puisque l'intérêt de travailler à plusieurs dans un castin, c'est aussi qu'un correcteur, il ne sait pas tout. Hein. Il est entouré de dictionnaires. C'est vraiment, les dictionnaires sont un peu ses doudous, ses objets fétiches. voilà. Et sans dictionnaire, il se sent tout nu. Mais on échange aussi entre nous. Plusieurs têtes valent mieux qu'une. Un correcteur dans un quotidien, il corrige aussi bien les pages économiques que les pages de sport, que la mode, que tout ça. Donc on est, pour certains d'entre nous, on a peut-être un qui aime le sport, l'autre qui a vu le dernier défilé de mode, donc on partage. Et pour un certain nombre d'orthographes, ou de problèmes typographiques, on va dire. Il y a des choses qui sont toujours compliquées. Par exemple, vous allez entendre dans le bureau des correcteurs « Comédie française, comment vous faites ?» Ça veut dire, on veut savoir où sont les capitales. Tout le monde sait écrire comédie française, mais on a peut-être oublié qu'il faut deux capdives. Deux capdives, ça veut dire une majuscule à comédie, une majuscule à française. On dit cap pour capitale. Et div, c'est le trait d'union. On appelle division, donc div.
Voilà. Tiens, je me pose encore la question. Pour Premier ministre, est-ce qu'on met une capitale à premier ?
Alors, pas au monde. Mais ça, c'est une question de marche. Ça aussi, ça fait partie du vocabulaire de la presse, la marche d'un journal. Ouais. Au Monde, on ne met pas de capital à Premier ministre, on met très peu de capital. C'est une des particularités du Monde. Si on le regarde de loin, on s'en aperçoit.
Pourquoi ? Parce que vous êtes sobre au Monde ?
Ou on veut se donner l'air sobre, ouais. J'en sais rien.
Parce qu'il faut les mériter, les capitales, peut-être.
Non, donc il y a très peu de capital au Monde, mais par exemple, je crois que dans Libération, ils mettent une capitale à Premier ministre, ou plein de journaux mettent une capitale à Premier.
Muriel Gilbert, combien il faut de lecture, combien de fois vous lisez un article avant de dire, c'est bon, il peut partir à l'impression, il n'y a pas de faute ?
On peut jamais en être sûr. Ça, c'est la malédiction du correcteur. Il reste toujours une petite faute quelque part. J'ai même publié un livre l'année dernière qui n'était pas celui dont on parle aujourd'hui, qui s'appelait Que votre moustache pousse comme la broussaille. J'en profite pour en parler. Et donc, dans ce livre qui a été écrit par une correctrice, qui a été particulièrement bien corrigée, mais on a encore trouvé trois petites fautes comme ça, voilà.
Et les journalistes vous en veulent quand ils voient qu'il y a encore une faute dans leur article, ils se disent « Ah bah d'accord, merci Muriel hein. ».
Ouais, ça c'est effectivement, c'est le côté ingrat du métier, parce que le correcteur, ben, on a besoin de lui, mais on ne s'aperçoit qu'il est là que quand il a laissé une erreur. Et donc c'est un peu, moi je compare aussi notre métier à celui de femme de ménage. C'est-à-dire c'est un métier indispensable. Si on ne fait pas le ménage chez vous, c'est dégoûtant. Mais si c'est fait, bah, vous ne vous en rendez pas compte. En revanche, s'il reste une toile d'araignée quelque part, vous allez dire, dis donc, là, elle n'a pas bien fait là, dans ce coin-là. Bah, c'est un peu ça.
Donc vous chassez les toiles d'araignée et vous racontez cette histoire dans ce livre, Au bonheur des fautes, confession d'une dompteuse de mots, c'est chez la librairie Vuibert. Ça devient une obsession, les fautes ? C'est-à-dire que vous les chassez tout le temps dans votre quotidien, en lisant, dans la rue.
Comme des toiles d'araignée, Thomas.
C'est ça. Alors, c'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf, parce que je me demande si je suis devenue correctrice finalement, parce que j'étais déjà en train de traquer les fautes sans cesse, ou en tout cas, j'étais une lectrice compulsive. Et ça va de la boîte de biscottes le matin, ou je ne sais pas, les noms des rues, les publicités qui me passent sous les yeux. Les menus des restaurants, c'est catastrophique en général. Donc j'ai toujours été comme ça, mais depuis que je suis correctrice, bah, c'est pire. Parce que d'abord j'en vois plus, je vois, alors par exemple, depuis que je suis devenue correctrice, je vois quand il y a deux espaces entre deux mots par exemple. Et ça, il n'y a que moi qui le vois, quand je dis à mon compagnon, t'as vu là, il y a un espace entre deux, arrête.
Fous-moi la paix. Nous on adore ça et on va, grâce à vous, découvrir les fautes les plus commises par les journalistes.
Ah bah comme celle-là par exemple, arrive, elle est bien.
Allez, à tout de suite.
Moi j'aime bien les fautes.
Vous écoutez RTL.
RTL.
5 lettres.
5 lettres. Hervé.
Pas mieux. 5 lettres aussi.
5 lettres aussi.
Je lui dis, allez, mon bleu.
La curiosité est un vilain défaut.
Hervé en 5 lettres.
Impi.
Quelques mots d'amour.
Oui. Un autre mot quand même pour Monsieur Girondet.
Ouais, et je l'ai plus.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Moi j'ai 9 lettres.
Hein. Vous avez 9 lettres ?
Curiosité.
Oh, bravo Thomas !
Trop fort !
Nous sommes plus de 280 millions à la parler sur Terre. La langue française est au cœur de son métier, de sa passion. Elle se bat pour qu'elle soit respectée, bien orthographiée. Muriel Gilbert est notre invitée. Vous êtes correctrice pour le journal Le Monde. Alors dans votre livre, Au bonheur des fautes que vous publiez aux éditions de la librairie Vuibert, j'ai découvert, et ça m'a fait extrêmement plaisir, que la langue française évoluait vers une féminisation, elle se féminise. Mais ça veut dire quoi? Et où est-ce qu'on peut le voir? Et s'en vanter, et l'utiliser, s'en gargariser?
C'est pas que la langue française en elle-même entièrement évolue vers une féminisation, mais en particulier, enfin, c'est vraiment un des chantiers. La langue, c'est quelque chose qui bouge. Une langue vivante, c'est justement pas une langue morte, donc c'est quelque chose qui évolue. Et moi, je l'ai vu même évoluer depuis les 10 ans que je travaille au Monde, c'est-à-dire sur une période très courte. Bon, évidemment qu'il y a les mots, du web, par exemple, qui arrivent.
Bien sûr.
Voilà, hein, il y a ça. Il y a le Brexit qui est arrivé, il y a des choses comme ça. Donc il y a des nouveaux concepts, ça c'est simple. Mais il y a aussi, par exemple, depuis... Les femmes travaillent, je veux dire, de manière... Elles ont toujours travaillé dur, mais travaillent de manière rémunérée dans des métiers reconnus, entre guillemets, depuis finalement relativement peu de temps. Ma mère me disait que quand elle a commencé à travailler, elle devait avoir la signature de son mari, l'autorisation de son mari pour travailler, par exemple. Et ça, on parle des années 60. Mmh. Donc, c'est récent. Et, par exemple, ben, on n'avait pas pensé, on s'était pas demandé s'il fallait un nom pour dire une femme médecin, oui. Une femme ambassadeur, une femme auteur, une femme écrivain. Donc, on disait un écrivain. Quand moi, je me souviens, quand j'ai passé le bac, on disait encore un écrivain. Pour une femme.
Aujourd'hui, on peut dire une écrivaine ?
Aujourd'hui, on peut dire une écrivaine. Et justement, on est en plein dans ce chantier-là. Il y a des gens qui contestent. Pour le moment, dans les dictionnaires, on a le choix un peu.
Alors, je me permets de profiter de votre présence. Je présente une émission sur France 2 qui s'appelle « Tout le monde a son mot à dire ». Et il y a un champion...
Tous les jours
et
à 18h.
Tous les jours à 18h. Et il y a un champion, c'est sur la langue française justement, un champion et un challenger. Et il se trouve que c'était une femme qui était challenger. Et moi, je me suis trouvée embêtée tout à l'heure dans l'émission. J'étais là, une challengeuse. Alors, on m'a dit en rigolant, une challengette. Oui, mais c'est une question sérieuse. Qu'est-ce qu'on dit, Muriel?
J'en sais rien, faudrait que je
m'adapte au dictionnaire. Non, mais on m'a dit un challenger. Bah oui, mais c'est une femme. Bah,
une challenger, moi je dirais.
Une challenger. Allez,
en rajoutant un E.
Moi, ça serait mon choix, comme ce qui a été fait pour auteur, par exemple. C'est ce qu'on fait dans le monde aujourd'hui. On le faisait pas il y a une dizaine d'années. Le service livre était assez accroché à son auteur au masculin, même quand il s'agissait d'une femme. Et puis aujourd'hui, on a décidé donc. Au monde, de féminiser les noms de métiers autant que faire se peut. Mais certaines personnes, par exemple, nous disent « Mais écrivaine, ça fait veine !» Ils oublient juste que écrivain, ça fait vin. Mais ça leur pose aucun problème. C'est parce que c'est un mot nouveau et voilà, il faut s'y habituer. Et j'ai rencontré il y a peu, par exemple, une femme à une terrasse de café de Montpellier. Quand elle a su que j'étais correctrice, elle m'a dit « Ah, moi, je suis sculptrice, enfin sculpteuse, enfin sculpteur, enfin j'en sais rien, qu'est-ce qu'il faut dire ?» Elle me dit « De toute façon, sculpteuse, j'aime pas. » Ben, j'ai dit, si vous aimez pas, justement, en ce moment, dans les dictionnaires, il y a un peu de tout en fonction des dictionnaires. Hein. Et je lui ai dit, aujourd'hui, c'est les sculptrices, si elles veulent s'appeler sculptrices, à elles de faire écrire ça sur les affiches qui présentent leurs expos, sur leur site web.
Ah, et ça entrera ainsi dans le dictionnaire.
Bien sûr. Parce que les dictionnaires se fabriquent sur la langue, c'est pas l'inverse. Les dictionnaires et les correcteurs n'imposent pas la langue, ils entérinent ce qu'on appelle l'usage, finalement. Alors évidemment qu'ils ne vont pas foncer dans toutes les modes et tout de suite entériner le dernier mot sorti, mais à partir du moment où tout le monde commence à faire même une faute, ça devient la norme.
Est-ce que dans votre travail au Monde, Muriel Gilbert, ça vous arrive d'intervenir sur le fond, sur des incohérences de fond ?
Alors, ça a pu nous. Bien sûr que ça arrive. Normalement, ça peut être fait à des stades antérieurs. Il y a notamment les secrétaires de rédaction qui sont là pour ça, entre autres. Mais nous, on est un filet de sécurité supplémentaire, les correcteurs derrière. Et quand on s'est trompé entre Louis XVI et Louis XIV, par exemple, c'est juste un changement d'une interversion de signes. Bah, il faut quand même être suffisamment réveillé pour s'en rendre compte. Voilà, ça fait partie des choses qu'on peut changer.
Alors, vous nous disiez que votre outil principal, votre doudou même, vos doudous, ce sont des dictionnaires. C'est lequel le meilleur? Est-ce que vous pouvez dire ça?
Alors, je ne sais pas s'il y a un meilleur, mais il y a un chouchou. C'est comme parmi les doudous.
Robert. Donc,
voilà. Alors, le chouchou au monde, c'est Larousse.
Ah oui, et pourquoi? Voilà. Pourquoi il est mieux que Robert?
Alors, d'ailleurs, un correcteur vous reconnaît.
Oui, au monde.
Un correcteur vous reconnaît un Larousse d'un Robert, les yeux fermés. Ils n'ont pas le même papier. Ils ont pourtant à peu près la même épaisseur, mais ils n'ont pas le même papier. Celui du Robert est beaucoup plus fin. Il y a plus de pages dans le Robert. Le Larousse, pour nous, on le considère comme plus exact sur la graphie des mots. En revanche, quand on a toujours le Robert, et d'ailleurs chaque année au moment de la sortie des nouveaux dictionnaires, vous savez, c'est comme à la rentrée des classes, on reçoit chacun nos nouveaux dictionnaires tout emballés, qui sont bons et tout. Et d'ailleurs, celui de l'année d'avant, il est tout usé, parce qu'on est tellement... Mais on les ouvre 50 fois par jour, je ne sais pas combien.
Ils sont fatigués.
Voilà, ils sont fatigués. On les donne dans les autres services parce qu'on recycle, mais enfin, ils sont un peu scotchés, tout ça. Et donc, pour nous, Larousse est plus fiable sur la graphie des mots, sur l'orthographe, mais si vous avez un mot dont vous ne comprenez pas le sens, qui nous arrive de temps en temps, si on cherche le sens d'un mot, alors Robert est nettement plus détaillé. Les définitions sont beaucoup plus longues. Donc, quand vous ne comprenez pas un mot, vous comprendrez beaucoup mieux dans Robert que dans Larousse.
Et bien, Larousse, c'est quoi son avantage alors?
C'est que son orthographe est bien précise.
Donc, il faut travailler avec les deux, en fait.
On travaille avec
les deux. Alors, dans un instant, vous allez, après les informations, nous raconter quelle a été l'une des plus grosses fautes de relecture du journal Le Monde. Et oui, on balance dans la curiosité, puis vous nous direz...
Ça a trait un peu à la politique.
Hein, oui, c'est ça.
On ne va pas dire exactement quoi, mais c'est vrai qu'elle était
années,
assez belle.
Donc il y a prescription, c'est pour ça que je peux vous le raconter.
Et puis vous nous raconterez aussi, révélerez d'autres fautes d'orthographe commises par les journalistes. Ça nous servira. Vous nous direz aussi comment s'écrit réellement le mot quiz, pas si simple. Et connaissez-vous les mots qui ne riment avec aucun autre?
Un Z ou deux Z? Bonne question. Tiens, si vous voulez répondre, vous pouvez nous appeler au 3210.
Vous écoutez RTL.
J'ai trouvé un journal dans le hall de l'aéroport.
La curiosité est un vilain défaut.
Écrire et faire vivre les mots sur la feuille et son blanc manteau.
La réforme de l'orthographe contrarie les paléographes. Depuis que Nel vient d'être ôté, imbécilité.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Pierre Perret, Renaud Vassilou pour associer les mots orthographe, journal et le mot mot. Voilà, je l'ai dit, de retour dans la curiosité.
Il est comment le
mot? La langue française et des fautes d'orthographe, il est en pleine forme le mot mot. Notre invité en a fait son métier, elle est correctrice au Monde depuis 10 ans. Muriel Gilbert, est-ce que vous nous avez dit qu'il faut deux relectures? C'est presque minimum, parce qu'on s'arrêterait jamais, quoi, c'est ça?
C'est ça.
Même
c'est
dans
ça.
Vos livres qui ont été relus je ne sais combien de fois, on peut trouver des fautes, peut-être?
Oui, on trouve toujours une ou deux petites coquilles. Parfois, c'est les lecteurs qui les signalent. Alors, heureusement qu'il y a des retirages, et donc on les corrige au fur et à mesure. Mais c'est vrai que c'est très vexant. Le correcteur n'aime pas du tout laisser des fautes. C'est vraiment un truc qui lui fait mal.
Alors, évidemment, nous, c'est de la radio, donc on parle. Nous, ce qui nous ennuie souvent avec Thomas, c'est les liaisons. Est-ce qu'on doit les faire, pas les faire? Si on en fait trop, c'est un peu désagréable. Il y en a une qui... Vous avez un conseil à nous donner ou une qui vous écorche les oreilles?
Alors moi, il y en a une, mais là, c'est presque une fixette, quoi. C'est presque une maladie. Mais quand j'entends l'absence de liaison à euros...
Par exemple,
vous savez, 200 euros, 20 euros... On entend ça de plus en plus souvent, enfin, pas de plus en plus souvent, depuis l'euro, en fait, on entend ça. Oui.
Et parce qu'on a peur de faire une faute.
On a peur de faire une faute et on ne sait pas comment faire. Mais ce qui est étonnant, c'est que à l'époque des francs, en fait, c'est venu, parce qu'à l'époque des francs, on n'avait pas besoin de ça, puisque le franc commençait par une consonne, il n'y avait pas de liaison. On disait 20 francs, 200 francs. Voilà. Alors moi, j'ai un truc là, pour ça. C'est quand même très simple de ne plus faire la faute à euro, à la liaison à euro. Tout le monde sait, on n'a pas tous les jours 20 ans. Les Français disent tous, j'ai 20, une personne ne dit j'ai 20 ans. Personne ne dit mémé à 80 ans ou mémé à 82 ans. En revanche, il dit mémé m'a donné 82 euros. Il suffit de faire pareil et de transformer les euros en années et du coup, vous saurez s'il faut faire la liaison ou non.
Et donc, on dit 20 euros?
Eh bien, oui, on dit 20 euros.
Ah bah
comme
oui,
on dit 20 ans. Voilà.
Ah, bah, c'est assez simple. Alors, je crois qu'on a des réactions au 3210.
Oui, alors Jean-Claude qui nous appelle du Morbihan. J'espère que vous avez la réponse. Hein. Pourquoi fainéant s'écrit maintenant feignant?
Ça s'écrit pas maintenant feignant.
Ouais.
C'est une. Alors vous tombez bien. J'ai la réponse, mais je l'ai pas forcément. Et parfois, il faut que j'aille chercher dans mes
dictionnaires. Et vous êtes venu sur votre
dico. Je veux tout de suite vous prévenir. Mais alors, fainéant dans une langue soignée se dit toujours fainéant. En revanche, le Larousse en particulier accepte fainéant, mais dit que c'est une langue un petit peu relâchée, un petit peu vulgaire, on va dire.
Eh ben voilà, merci à Jean-Claude pour cette question. Alors, on disait tout à l'heure, juste avant le flash, le journal de Julien, c'est lié que l'une des plus grosses fautes de l'histoire récente du Monde, à la une, en plus, avait trait à la politique. C'était quoi ?
Alors, c'était pas une faute, justement, quand on dit faute.
Oui.
C'était une erreur, en fait. Mais souvent, les erreurs sont plus graves que les fautes.
En fait, c'est une faute de correcteur. C'est-à-dire que personne l'a vue.
Eh bien, justement, je suis assez contente de vous dire que n'importe qui aurait pu la voir. C'est-à-dire, c'est pas comme un participe passé mal accordé, un truc très spécialisé qui serait que du domaine du correcteur. N'importe quel rédacteur en chef, et même le photographe aurait pu la voir. Parce que la une du quotidien, elle est scrutée par toute la rédaction. Au moment où elle sort, tout le monde est branché dessus, et donc tout le monde avait relu ça. Et donc cette erreur, c'était tout simplement à l'époque où Nicolas Sarkozy était président de la République, assez fraîchement élu. Il venait de se séparer aussi très récemment de son épouse Cécilia, et puis d'épouser très rapidement Carla. Et puis un jour, donc il fallait que la première dame était allée annoncer à une prisonnière qu'elle serait libérée. Et donc on a écrit que Cecilia Bruni Sarkozy avait fait cette annonce. Ouais, tout le monde l'a laissé passer. Il s'agissait évidemment de Carla.
Vous aviez réuni les deux.
Voilà. Il se passe quoi à la suite d'une erreur comme ça, la une d'un journal, franchement ?
Ça fait un petit scandale quand même.
Hein. Moi, il y a eu des petits coups de fil.
Je suis assez contente d'avoir eu la chance à ce moment-là d'être en vacances. J'étais même assez loin. J'étais en train de marcher en Jordanie, mais j'en ai entendu parler jusque là-bas. Et je suis sûre que si j'avais été là, je l'aurais laissé passer comme les autres.
Muriel Gilbert, il y a des règles qui sont très difficiles à maîtriser. C'est pas vraiment une règle, mais il y a ces fameux 20 euros ou 20 euros. Et puis il y a aussi d'autres règles pas simples, comme le conditionnel.
Le conditionnel,
on souvent avec le futur.
Tout ça, oui, c'est ça. Est-ce que c'est AI ou est-ce que c'est AIS ? Ça, c'est compliqué pour les gens. Moi, je leur dirais, vous savez quoi ? Allez voir en ligne, il y a des conjugueurs, il y a un site qui s'appelle conjugueur.com, qui est formidablement fait, qui est sur le site du Figaro d'ailleurs maintenant, et qui vous conjugue tous les verbes, à tous les temps et à tous les modes, vous avez toutes les réponses. Et puis même, il y a une petite case, c'est écrit nulle part, et là c'est un secret que je vous dévoile, dans la petite case où vous pouvez écrire le verbe, vous pouvez aussi écrire un chiffre, en chiffre, 180 000... Et il va vous l'écrire en lettres, avec tous les S, les tirets.
Oh, c'est génial.
C'est très compliqué.
Et attendez, vous avez quelque chose pour les participes passés ? Parce que ça me pose pas mal de problèmes.
Pour les participes passés, qu'est-ce que je peux vous dire ?
Participepassé.com, non,
appelez votre correcteur. Non, vraiment, même nous, les correcteurs, sur certains participes passés, il y a des exceptions telles. Il y a 20 pages dans chaque grammaire sur les participes passés. Donc c'est une règle que même Becherel reconnaît comme, je ne sais plus l'adjectif qu'ils ont employé, particulièrement illogique. Hein. Elle nous vient de...
Perverse.
Oui, quasiment. Alors, c'est pas ce que dit Becherel qui va pas jusque-là. Mais elle nous vient de Clément Marot, qui était poète officiel de François Ier et qui est allé rapporter ça d'Italie. Il est allé en Italie, puis alors à l'époque, l'Italie, c'était super à la mode, et donc il s'est dit, oh chouette, comme ils font leurs accords du participe passé, c'est magnifique, on va importer ça en France. Et du coup, depuis, d'ailleurs, les Italiens ont beaucoup simplifié l'accord du participe passé, tandis que nous, en France, on se retrouve avec toutes ces complexités.
Merci Clément Marot.
Merci Clément Marot. Mais bon, puisqu'on les a, autant s'amuser avec. Moi, je pense qu'il faut prendre ça comme un petit quiz.
Mais oui, évidemment, le mot quiz, on va y venir. Vous publiez Au bonheur des fautes à la librairie Vuibert, Muriel Gilbert, et il y a plein d'exemples, tiens, cette phrase, je l'aime beaucoup. Les tabloïds qui, dans leur grande majorité, voulaient voir l'Angleterre sortir de l'Europe, semblent plus chafouins de ce Brexit footballistique. J'adore ce mot, chafouin. Il veut dire quoi ? Et est-ce qu'il était à sa place dans cette phrase ?
Et dans cette phrase, il n'y était pas, parce que, en fait, on croit que chafouin, sans doute parce que ça y ressemble au niveau des sons, on pense que ça veut dire chagrin. Ça ne veut pas dire chagrin, c'est un mot assez négatif, ça veut dire rusé, mais dans le sens de sournois. Donc en fait, là, on l'a remplacé par chagrin, tout simplement.
Et il y a un phénomène contre lequel vous devez vous battre aussi en tant que correctrice, Muriel Gilbert, c'est le globiche. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle maladie moderne?
Un poisson aux gros yeux, non?
Oui, c'est
quoi,
ça pourrait être. C'est cette espèce de faux anglais qui envahit justement le monde entier, puis les journaux, parce qu'il y a beaucoup de communiqués, beaucoup d'infos qui viennent des États-Unis. Les journalistes ont tendance à traduire, parce qu'ils parlent l'anglais, ils le parlent plutôt pas mal, mais de là à être traducteur, ça aussi c'est un métier. Et donc on copie, on calque bien souvent les expressions. C'est comme ça qu'on se retrouve par exemple avec des dédiés. Ça fait partie des fautes qu'on traque chez les journalistes, des dédiés qui n'en sont pas. Par exemple, quand on dit un salon dédié à l'agriculture, non. On ne dédie pas un salon à l'agriculture. On dédie une église à la Vierge, on dédie un livre à sa maman, mais un salon, on le consacre à l'agriculture, par exemple. Voilà. Et ça, ça vient du dedicated anglais.
Oui. Et alors, ce quiz, alors?
Et attendez, et quand on dit basé sur, par exemple, cette histoire, elle est basée sur... C'est pas correct non plus, c'est de l'anglais, ça, non?
Oh, moi, ça me gêne pas.
Ah, ça vous gêne pas? Je suis plus sévère que Muriel.
C'est vrai. Alors, et donc, ce quiz, alors, on lui met un Z ou deux Z?
Eh bien, on lui en met un seul. De même qu'au grill, hein, puisqu'on y est, avec les mots qui doublent, enfin dont les gens ont envie de doubler la consonne finale, le grill et le quiz ne prennent qu'un Z. Et combien de fois je vois, mais même à la télé, et ça m'agace évidemment, c'est là où je bondis, des quiz avec deux Z.
Ah mais oui.
Oh là là.
Ça a l'air plus compliqué
sur France 2, Sidonie. Méfiez-vous.
Je vais la regarder encore une fois.
Ils sont super anxieux à France 2 parce que vous allez revenir avec tous les trucs.
Je vais revenir avec Muriel surtout. Après, je vais prendre Muriel toute la journée.
On a d'autres astuces, d'autres conseils à vous donner sur RTL. Restez avec nous dans la curiosité.
Vous écoutez RTL. RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
C'est la semaine de la langue française et de la francophonie et on a pris une grande décision avec la rédaction de La Curiosité. On s'est dit, on va bien parler, on va bien écrire sans
faire
de fautes.
Et
pour cela, on a appelé la correctrice du Monde, du journal Le Monde, car c'est un métier, correctrice, Muriel Gilbert. Vous nous transmettez votre amour du français, vous nous aidez à mieux écrire, mieux parler. Moi, j'ai l'impression que depuis qu'on écrit sur des ordinateurs, sur des claviers, on écrit moins bien, on se laisse un peu aller à faire des fautes. Est-ce que c'est une simple impression?
Moi, j'ai l'impression que plutôt les claviers vous permettent quand même d'avoir les correcteurs d'orthographe. Ils vous soulignent un tout petit peu en rouge là quand le mot n'a pas l'air tout à fait bien connu. Alors, il faut pas suivre le correcteur d'orthographe aveuglément, hein, parce qu'il
s'emballe parfois. Il propose des réponses.
Il vous propose des choses qui sont pas forcément intelligentes, mais c'est ça attire l'attention quand même. Moi, je trouve que pour ça, c'est un atout.
Est-ce que globalement, le niveau d'orthographe en France est en train de baisser?
Ben oui, il baisse, c'est ce que constatent en tout cas toutes les études qui sont faites année après année, quoi. C'est ce qu'on voit effectivement. Mais moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui on atteint un point tel que c'est un peu comme la cuisine, l'art de cuisiner à l'époque de, je reviens encore à mon expérience personnelle, mais je sais pas, l'expérience de ma mère m'a jamais appris à cuisiner quasiment. Et cette génération, en fait, les femmes avaient envie de travailler. On en a déjà parlé tout à l'heure. Oui. Elles avaient envie de travailler, faire la cuisine ou faire le ménage. Elles en avaient ras-le-bol et elles n'avaient pas l'impression que c'était les choses à apprendre à leurs filles. On se retrouve aujourd'hui ou depuis, enfin, il y a une dizaine d'années, avec des gens qui savent plus faire la cuisine. Et finalement, les quelques rares personnes qui savent la faire, qui savent faire les courses, tout ça, sont vachement appréciées. Et c'est devenu une science, c'est devenu un cadeau. On s'offre des cours de cuisine. Et je suis sûre que bientôt, on s'offrira des cours d'orthographe.
Très bonne idée, ça.
Mais qu'est-ce que vous pensez, Muriel Gilbert, de ces nouvelles règles là, qui arrivent dans l'orthographe? On dit aux enfants, le chapeau pointu, l'accent circonflexe, par exemple, sur paraître, ça ne sert plus à rien. Le trait d'union entre porte et monnaie, ça ne sert plus à rien. Mais alors, pour vous, dans le métier de correctrice, c'est hyper compliqué, parce que vous corrigez quoi? Qu'est-ce qui est une faute, qu'est-ce qui ne l'est plus?
Ça, effectivement, c'est très compliqué. Le correcteur, quand même, par essence, et puis c'est sa nature, il est conservateur. Donc nous, on n'aime pas les changements. On est correcteur, je donne souvent cette comparaison. C'est un peu comme un enfant à qui on raconte l'histoire des trois petits cochons tous les soirs, et puis quand vous vous trompez dans la réplique du grand méchant loup, il vous rappelle à l'ordre. Voilà. C'est ce côté un peu enfantin.
On l'a tous vécu, ça.
C'est ça. Donc, nous, au Monde, on a décidé qu'on n'appliquerait pas cette réforme de la langue française, ou du moins dans l'immédiat, puisque de toute façon, l'Académie l'a publiée. Bon, d'abord, elle date de 1995 ou 1998.
Hein. Oui, elle était passée quasiment inaperçue et c'est ressorti du chapeau.
Pourquoi elle est ressortie l'année dernière, on n'a pas trop compris. Mais en tout cas, elle est ressortie comme facultative. L'Académie ayant dit qu'on verrait ce qui était adopté ou non et ce qui entrait dans l'usage. Donc c'est une proposition qui est faite. Et nous aussi, on va faire pareil. On va se rendre compte si les gens utilise cette réforme, eh bien on y viendra petit à petit. Mais pour le moment, on continue d'appliquer la bonne vieille orthographe d'avant.
Alors moi, j'aime beaucoup jouer avec les mots de notre langue. Et c'est vrai qu'elle a son lot de complexité et de curiosité. Par exemple, cette liste des mots qui ne riment avec aucun autre.
Oui, c'est pourtant des mots très connus.
Ouais.
Par exemple, ben, simple. Il n'y a pas de mot qui rime avec simple en français.
Belge.
Avec belge. Avec goinfre.
Oui.
Avec pauvre. Ou même tout bêtement avec 14 ou 15.
Avec triomphe aussi.
Avec triomphe, ouais.
Et c'est vrai que c'est des mots qu'on utilise tout le temps et c'est on n'imagine pas qu'ils n'ont pas de.
Si vous voulez écrire un
poème, copains pour rimer.
Ne les mettez pas au bout des lignes. Hein.
Alors Thomas, si vous aimez jouer avec les mots, j'ai un bon jeu pour vous.
Ah.
Dans la langue française, il y a deux mots hermaphrodites.
On dirait même plus que ça, à vrai dire. Mais ça, c'est ceux qui sont les plus
connus. Alors, les plus connus.
Donc, ça veut dire qu'on peut dire un ou une, c'est
ouais.
ça
Alors, vous pensez à quoi?
Interview, par exemple.
Bravo.
Ah ben ça, pour un journaliste, vous le savez.
Voilà. Ouais. C'était facile.
Allez,
il y en a
un deuxième.
D'autres.
L'autre, il est encore plus simple et utilisé par tout le monde. Et souvent, on me demande. On demande
un moment qu'on adore dans la journée.
Ah, je sais. L'après-midi.
Ouais, exactement.
Est-ce que autoroute aussi? Est-ce qu'on peut dire l'un et l'autre?
Ah non, c'est une autoroute.
Ça, c'est sûr.
Beaucoup de gens disent un autoroute.
Mais oui,
j'ignore
pourquoi.
Parce qu'on dit une auto, on dit une route. Pourquoi dirait-on un autoroute? C'est un peu.
Et anagramme, on ne sait jamais si on dit une ou un anagramme. Ouais, on n'utilise pas ça tous les jours non plus. Hein, mais...
Ça fait partie de ceux qui, moi, me posaient problème. Donc, du coup, je me suis trouvé un truc. Et c'est ce que je fais quand j'ai des soucis, quand j'en ai marre de chercher dans mon dictionnaire toujours les mêmes choses. Et donc, je me suis dit anagramme, une anagramme, comme c'est une. Hein. Et je me suis dit, c'est comme une anagramme. Ouais. Voilà.
Ah, une nana.
Donc, c'est féminin.
C'est voilà. Trop mignon. Mais c'est quoi, d'ailleurs, une anagramme?
Une anagramme, c'est un mot qui comporte les mêmes lettres qu'un autre. Par exemple, il y a des anagrammes particulièrement intéressantes, qui sont curieuses, qui sont des curiosités de la langue, comme niche et chien.
Ah, c'est génial, ça.
Ah oui, avec les mêmes mots, on fait plusieurs mots.
Avec les mêmes lettres.
D'accord.
Avec les mêmes lettres, on fait plusieurs mots et on peut même faire des mots qui se ressemblent.
Et dans votre livre, Au bonheur des fautes, à la librairie Vuibert, j'en ai trouvé un autre. C'est soigneur et...
Et guérison.
C'est super.
Hein, c'est chouette.
La langue française est trop bien faite.
Voilà.
Hein.
Alors, vous en avez d'autres aussi. Un moyen mnémotechnique pour retenir le genre des mots astérix.
Astérisque. Et obélisque.
J'avais pas fini. Et obélisque.
Ouais. Ça aussi, ça pose souvent problème. Et en fait, je m'en souviens moi facilement en me rappelant des personnages, justement, vous l'avez dit. Astérix et Obélix sont tous les deux des garçons. Et donc, un astérisque et un obélisque.
Ah, c'est génial.
Et si je vous dis un nom d'oiseau, ça vous évoque quoi?
Alors, oiseau, c'est le mot de la langue française dont aucune des lettres ne se prononce comme elle s'écrit. C'est-à-dire le O ne se prononce pas O, le I ne se prononce pas I, le S se prononce Z, le E se prononce pas du tout, enfin il fait partie du O, le A et le U aussi.
Ah oui.
Et quand on met un X, c'est même le mot le plus long de la langue française dont aucune des lettres ne se prononce. Et puis c'est celui qui comporte toutes les voyelles si on excepte le Y, si on considère que le Y n'est pas exactement une voyelle.
Muriel Gilbert, on découvre aussi avec vous qu'il y a des mots qui sont particulièrement curieux, qui veulent dire une chose et son contraire. Vous avez des exemples en tête?
Ouais. Hôte, oui. Par exemple. L'hôte, c'est celui qui vous accueille, mais c'est aussi l'invité.
Ah mais oui.
On
s'est pas foulé là.
Non, on s'est pas foulé. Non, c'est vrai, on aurait pu chercher, c'est pas très précis. Ou bien on loue un appartement. Je loue un appartement, on vous demande parfois mais tu es locataire ou bien tu es propriétaire. Voilà, ça veut dire la même chose. Enfin ça veut pas dire la même chose, c'est le même mot.
Merci infiniment,
merci.
C'était absolument passionnant. On a hâte de vous retrouver au micro de la curiosité. Muriel Gilbert, vous publiez Au bonheur des fautes, confession d'une dompteuse de mots. C'est à la librairie Vuibert. À très vite.
Vous écoutez RTL.